Jacques Lacan, séminaire ou pire, le 19 avril 1972. Coupure début de bande.
Bon.
Cela on pourra aborder ce que il y a comme ça. J'espère que je le reprends du Yadle, je l'ai déjà proféré. Pour ceux qui sont là, qui se parachutent une contrée lointaine, je répète ce que ça veut dire, parce que ça ne fait pas d'une sonorité très habituelle. Yatla, ça a l'air de venir de je ne sais où. De là, hein. On ne s'exprime pas comme ça habituellement. Enfin, c'est pourtant ça que je parle. De là. Et l'apostrophe UN, il y en a. C'est une façon de s'exprimer et de se trouver, je l'espère du moins pour vous, en accord avec quelque chose que j'espère ça n'est pas nouvelle pour tout le monde ici. Dieu merci, je sais que j'ai des oreilles certaines averties des chants qui se trouvent. Pour faire face à ce dont il s'agit dans le discours psychanalytique, la vache pilote, nous sommes très d'accord, je vous expliquerai en quoi cette façon de s'exprimer avec ce qui historiquement s'est produit comme la théorie des ensembles. J'ai entendu parler de ça. Je parle de ça parce que c'est comme ça qu'on enseigne maintenant les mathématiques à partir de la classe de 11e. Je ne suis pas sûr, bien sûr, que ça en améliore beaucoup la compréhension. Qu'est-ce qu'il y a? Désolé, est-ce qu'on entend mieux comme ça? Alors, le haut-parleur ne marche pas. Comment? Bon. Alors, prenons le temps. Comme ça, on entend mieux? C'est l'écriture. Non pas bien sûr que La théorie des ensembles implique une écriture univoque. Mais que, comme bien des choses en mathématiques, elle ne s'énonce pas sans écriture. La différence donc avec cette formule, ce diatle que j'essaie de faire passer, c'est justement toute la différence qu'il y a de l'écrit à la parole. C'est une faille qui n'est pas toujours facile à combler. C'est bien pourtant à quoi je m'essaie en l'occasion, et je vais tout de suite pouvoir comprendre pourquoi, s'il est vrai que, comme je les ai réécrites au tableau, les deux supérieurs de ces quatre formules, j'essaie de fixer ce qui supplée à ce que j'ai appelé l'impossibilité d'écrire, justement, ce qu'il en est du rapport sexuel, c'est bien dans la mesure où, au niveau supérieur, deux termes s'affrontent, dont l'un est, il existe, et l'autre, il n'existe pas. Que j'apporte, je tente d'apporter la contribution qui peut la affaire utilement à partir de la théorie des ensembles. Il est remarquable déjà de ça, rappelant que Yedl n'ait jamais fait aucun sujet d'étonnement. C'est tout de même peut-être aller un peu vite que de le formuler ainsi. Car enfin, on peut mettre à l'actif de ce que j'appelle comme étonnement, ce pourquoi je vous interpelle de vous étonner. On peut y mettre à l'actif justement ce dont j'ai parlé. J'ai vraiment invité de la façon la plus vive à prendre connaissance. C'est ce fameux Parménide, n'est-ce pas, du cher Platon. Toujours si mal lu, enfin, en tout cas, moi je m'exerce à lire d'une façon qui n'est pas tout à fait celle reçue. Pour le Parménide, c'est tout à fait frappant de voir à quel point à un certain niveau, qui est celui proprement du discours universitaire, met dans l'embarras façon qu'ont ceux qui offrent passage au titre de l'université est toujours prodigieusement embarrassé, comme s'il s'agissait là d'une gageure, n'est-ce pas, d'une sorte de... d'exercice, quelque sorte purement gratuit, hein, de ballet. Et déroulement des 8 hypothèses concernant le rapport de l'un et de l'être reste en quelque sorte problématique, un objet de scandale. Certains, bien sûr, se distinguent en montrant la cohérence, mais cette cohérence apparaît à l'ensemble gratuite et les confrontations des interlocuteurs elles-mêmes paraissent confirmer le caractère anhistorique, si on peut dire, de l'ensemble. Je dirais, si tant est que je puisse avancer quelque chose dans ce point, je dirais que ce qui me frappe, c'est vraiment tout à fait le contraire, et que si quelque chose me donnait l'idée qu'il y a dans le dialogue platonicien, je ne sais quel premier assise d'un discours politique, je dirais que c'est bien celui-là, le Parménide, qui me le confirmerait. Il est tout à fait clair, en effet, si vous vous rappelez ce que j'ai donné, ce que j'ai inscrit comme structure. Pas par hasard que ça s'inscrit comme le signifiant indexé 1 se trouve au niveau de la production dans le discours analytique. Mais c'est déjà quelque chose qui encore revient, hein, ne puisse pas vous apparaître tout de suite. Je ne demande pas de prendre pour l'évidence. C'est une indication, en fait, de l'opportunité de centrer très précisément sur, pas le chiffre, mais le signifiant, hein, notre interrogation dans sa suite. Ça ne va pas de soi qu'il y ait de l'un. Ça a l'air d'aller de soi, parce que par exemple, vous avez êtres vivants et vous avez bien toute l'apparence, tout à chacun, quand il est là, c'est bien arrangé, n'est-ce pas, d'être tout à fait indépendant les uns des autres, de constituer chacun ce qu'on appelle de nos jours une réalité organique, de tenir comme individu. C'est bien de là, bien sûr, que toute une première philosophie enfin, a pris un appui certain qui y a, par exemple, de frappant, c'est comme une pause magique qui reste aristotélicienne, le fait de mettre sur la même colonne, c'est-à-dire de, dans l'occasion, je vous le rappelle, de mettre au principe de la même spécification de Nix, à savoir, je l'ai dit, je l'ai déjà énoncé, l'homme, de l'être qui se qualifie, c'est le parlant comme masculin. Si nous prenons le « il existe », il existe au moins un saint, n'est-ce pas, pour qui le « x » n'est pas recevable comme assertion. Eh bien, de ce point de vue, du point de vue de l'individu, nous nous trouvons placés dans une position qui est nettement contradictoire, à savoir que la logique aristotélicienne, laquelle est fondée sur cette intuition, qu'il pose comme réelle, Aristote, et après tout, il n'y a pas d'homme. Ce n'est pas l'idée du cheval qui est réelle. C'est le cheval bel et bien vivant dans lequel nous sommes forcés de nous demander précisément comment vient l'idée, d'où nous la retirons, la renverse. La renverse non sans argument péremptoire. Ce dont parlait Platon, c'est à savoir que c'est de participer à l'idée du cheval que le cheval se soutient. Le réel, c'est l'idée du cheval. Si nous nous plaçons sous le biais aristotélicien, c'est clair qu'il y a contradiction entre l'énoncé pour tout X, X remplit dans phi de X la fonction d'argument, le fait qu'il y a quelques X qui peut remplir la place d'argument que dans l'énonciation exactement négation de la première. Il dit que tout cheval, ce que vous voudrez, n'est-ce pas, Goethe, et si on y ajoute qu'il y a quelques chevals, au moins un, s'il n'est pas dans la logique aristotélicienne, ceci est une contradiction. Ce que j'avance est fait pour vous faire saisir que, justement, si je peux, si j'ose avancer le terme de droite dans mon groupe à quatre termes, pas par hasard, ils sont quatre. Il peut avancer quelque chose qui manifestement fait défaut à la dite logique, c'est bien certainement dans la mesure où le terme d'existence a changé de sens dans l'intervalle et où il ne s'agit pas de la même existence quand il s'agit de l'existence en terme qui est capable de prendre dans une fonction mathématiquement articulée la place de l'argument.
quel soin de se garder comme tel avec cette au moins humble qui est très précisément ce qui est formulé par la notation et un verset X. Il existe un X. Au moins un. Valeur quantifiable prête. Cette distance qui se pose de l'existence, si on peut dire, je ne l'appellerai pas autrement, aujourd'hui, faute d'un meilleur mot, l'existence naturelle qui n'est pas limitée aux organismes vivants, c'est un par exemple, nous pouvons les voir dans les corps célestes. Alors, ce n'est pas pour rien qu'ils sont parmi les premiers à avoir retenu une attention vraiment scientifique. C'est très précisément dans cette affinité qu'ils ont avec l'un, ils apparaissent comme s'inscrivant au ciel, comme des éléments, des éléments marquables de l'âme sont multiformes. Et il est certain qu'ils ont beaucoup fait pour mettre l'accent comme forme de passage pour mettre l'accent sur le point, c'est-à-dire entre l'individu et ce qu'il en est, de ce que j'appellerais l'un réel. Dans l'intervalle, ce signifie fortiforme ont joué un rôle éminent pour ce qui est de leur transition. Est-ce que il ne vous est pas sensible et certainement est-ce que ça n'a pas retenu votre oreille au passage que je parle de l'un comme d'un réel qui aussi bien peut n'avoir rien à faire avec réalité. J'appelle réalité ce qui est la réalité, à savoir par exemple l'existence propre, votre soutien qui est assurément matériel. Il s'agit de savoir de quoi il parle quand il dit qu'il y a de l'un. D'une certaine façon, on va voir à quel s'engage. Je veux dire, à partir de ce tournant où décidément c'est non comme tel qu'elle s'est
particulier, mais aussi qui est son grand tournant, le tournant galiléen, il est clair que de cette perspective scientifique, le 1 que nous pouvons qualifier d'individuel, un, et puis quelque chose qui s'énonce dans le registre de la logique du temps. Il n'y a pas tellement lieu de s'interroger sur l'existant, sur le soutien logique qu'on peut donner à une licorne, tant qu'aucun animal n'est pas conçu d'une façon plus appropriée que la licorne elle-même. C'est bien dans cette perspective qu'on peut dire que ce que nous appelons la réalité naturelle, nous pouvons l'apprendre au niveau d'un certain discours et n'occupe pas à présent que le discours analytique soit celui-là. La réalité, nous pouvons tous au niveau fantasme. Ce réel, dans le discours analytique et des faits pour rappeler, que son accès à celle symbolique, le dit réel, c'est dans et par. C'est impossible de définir le symbolique. L'accident. Il revient au niveau de l'histoire naturelle d'un cline, je ne vois pas ce qui différencie la licorne d'aucun animal parfaitement existant dans l'ordre naturel. Perspective qui interroge le réel dans une certaine direction nous commande d'énoncer ainsi les choses. Je ne suis pas du tout autant, n'est-ce pas, en train de parler de quoi que ce soit qui ressemble à un progrès. Hein, ce que nous gagnons sur le plan scientifique, qui est incontestable, ne croit absolument pas pour autant, par exemple, dans le sens critique en matière de vie politique. Hein. Souligner que ce que nous gagnons d'un côté est perdu de l'autre, pour autant qu'il y a une certaine limitation inhérente à ce qu'on peut appeler le champ de l'adéquation, je l'ai parlé. La biologie des progrès de Plin, que c'est un progrès absolu. Si un citoyen romain voyait comment nous vivons, heureusement, en que cause, on peut l'évoquer à ce moment-là en personne, enfin, il serait probablement bouleversé d'horreur. Nous pouvons en préjuger qu'après les ruines qu'a laissé cette civilisation, l'idée que nous pouvons nous en faire, c'est de pouvoir imaginer ce que seront les restes de la nôtre dans un temps, s'il est supposable, équivalent. Ceci ne passe pas pour vous parler, que vous montiez le gorichon, c'est-à-dire, sur le sujet de confiance que je ferai particulièrement à la science. Il ne s'agit pas, dans le discours analytique, d'un discours scientifique, mais d'un discours dont la science fournit le matériel. Donc il est clair que la prise de l'être parlant sur le mot où il se conçoit comme plongé, je m'avais déjà dit sans son rapace, n'est-ce pas vous, cette prise le va en augmentant. Cette prise ne va en augmentant que dans la mesure où quelque chose s'élabore et c'est l'usage du nom. Je prétends que ce nom se réduit tout simplement à ce gâteau. Alors, pour voir ce qui, historiquement, nous permet d'en savoir sur ce Gadelin un petit peu plus que ce que Platon en fait, si je peux dire, en le mettant tout à plat avec ce qu'il en est d'être. Il est certain que ce dialogue est extraordinaire. Si vous voulez bien regarder plus près, vous y trouverez déjà préfiguration de ce que je veux sur la base, sur le thème de la théorie des ensembles énoncée en ce cadre. Commencez seulement l'énoncé de la première hypothèse si l'un il est à prendre pour sa signification si l'un est un. Mais comme objection, c'est que cet un sera nulle part, parce que s'il est quelque part, il sera dans une enveloppe, dans une limite, et que ceci est bien contradictoire avec son existence. Ben voilà, je pars doucement, c'est comme ça, tant pis, c'est comme ça que je parle aujourd'hui. Sans doute que je ne peux pas faire. Pour que l'un ait pu être élaboré dans son existence de la façon que font la Mengenlehre, la théorie des ensembles, pour le traduire comme on l'a traduit non sans bonheur en français, certainement avec un accent répond pas tout à fait avec le sens du terme original en allemand, qui du point de vue de ce qu'on vise n'est pas meilleur. Eh bien, ceci n'est venu que tard, et n'est venu qu'en fonction de toute l'histoire des mathématiques elles-mêmes. Donc, bien entendu, contraste. Mais il reste des abrégés, et dans lequel il faut tenir compte de ceci, pour son accent, toute sa portée, à savoir de ce que je pourrais appeler les extravagances du nom. Ça a commencé très tôt, puisque déjà au temps de Platon, le nombre irrationnel faisait problème, et qu'il se trouvait hérité, il nous en donne l'énoncé avec tous les développements dans le Théétète, n'est-ce pas ? Le scandale pythagoricien du caractère irrationnel de la diagonale du carré, du fait qu'on ne finira jamais. Ceci démontrable sur une figure, et c'est bien ce qu'il y avait de plus heureux pour leur faire apparaître à cette époque l'existence de ce que j'appelle l'extravagance numérique, je veux dire quelque chose qui sort du champ de l'homme. Après ça, quoi ? Quelque chose que nous pouvons, dans la méthode d'exhaustion d'Archimède, considérer comme l'évitement de ce qui vient tellement de siècles après, sous la forme des paradoxes du calcul infinitésimal, sous la forme de l'énoncé de ce qu'on appelle l'infiniment petit, chose qui ne met très longtemps à être élaboré en posant quelques quantités dont on dit que de toute façon certains modes d'opérer aboutira à être plus petit que la dite quantité, c'est-à-dire en fin de compte certes du fini pour définir un transfini. Et puis l'apparition, ma foi, on ne peut pas la mentionner, l'apparition de la série trigonométrique de Fourier, qui n'est pas certainement sans poser toutes sortes de problèmes de fondement théorique, tout ceci conjugué, avec la réduction des principes parfaitement finitistes du calcul dit infinitésimal, poursuit à la même époque, et dont Cauchy est le grand représentant. Je ne fais de cette évocation ultra rapide que pour dater ce que veut dire la reprise sous la plume de Cantor de ce qui est le statut de l'homme. Le statut de l'homme, à partir du moment où il s'agit de le fonder, ne peut partir que de son ambiguïté. À savoir que le ressort de la théorie des ensembles tient tout entier à ce que le 1 filigrane de l'ensemble est distinct de l'un de l'élément. La notion de l'ensemble repose sur ceci. Qu'il y a ensemble, même avec un seul élément. Nous sommes ceux qui va comme ça d'habitude, mais le propre de la parole est justement d'avancer avec des gros sabots. Il suffit d'ailleurs d'ouvrir n'importe quel exposé de la théorie des ensembles pour toucher du doigt ce que ceci implique, à savoir que si l'élément posé comme fondamental d'un ensemble est quelque chose, que la notion même de l'ensemble permet de poser comme un ensemble vide, eh bien, ceci fait l'élément. Est parfaitement recevable, à savoir qu'un ensemble peut avoir l'ensemble vide comme constituant son élément, qu'il est à ce titre absolument équivalent à ce qu'on appelle communément un singleton, pour ne pas justement annoncer tout de suite la carte du chiffre 1, ceci de la façon fondée, pour la bonne raison que nous ne pouvons définir le chiffre 1 qu'à prendre la classe de tous les ensembles qui sont un seul élément et à en mettre en valeur l'équivalence comme étant proprement ce qui constitue le fondement de l'un. Le statut du nom. Et ce qui prouve qu'elle le restaure effectivement, ceci dans la perspective de ce que j'énonce, c'est que très précisément a énoncé comme elle le fait, le fondement de l'un, et à y faire reposer le nombre comme classe d'équivalence. Elle aboutit à la mise en valeur de ce qu'elle appelle le nom dénombrable, qui est très simple, et vous allez le voir, d'un accès immédiat. Mais que, à le traduire dans mon vocabulaire, j'appelle non pas le nom dénombrable, que je n'hésiterai pas à qualifier de mythique, mais l'impossibilité à dénombrer ce qui exister par la méthode, ici je m'excuse de ne pas pouvoir en illustrer immédiatement au tableau la facture, mais vraiment, après tout, qu'est-ce qui empêche ceux d'entre vous que ce discours intéresse enfin, d'ouvrir le moindre traité dit théorie naïve des ensembles, pour s'apercevoir que par la méthode dite diagonale, on peut faire toucher du doigt qu'il y a moyen à énoncer une série de façons différentes la suite des nombres entiers, car à la vérité on peut l'énoncer de 36 000 façons, qu'il sera immédiatement accessible de montrer que, quelle que soit la façon dont vous l'ayez ordonné, il y en aura à prendre simplement la diagonale et dans cette diagonale à en changer à chaque fois selon une règle à l'avance déterminée des valeurs, une autre façon encore de les dénombrer. C'est très précisément en ceci que consiste le réel attaché à l'un. Et si tant est qu'aujourd'hui je puisse mieux en pousser assez loin dans le temps auquel j'ai promis que je me limiterais, la démonstration, je vais tout de même, dès maintenant, mettre l'accent sur ce que comporte cette ambiguïté mise au fondement de l'incontest. C'est très exactement ceci que, contrairement à l'apparence, l'un ne saurait être fondé sur la mêmeté. Mais qu'il est très précisément au contraire par la théorie des ensembles marque comme devant être fondé sur la pure et simple différence. Ce qui règle le fondement de la théorie des ensembles consiste en ceci, que quand vous en notez, disons, pour aller au plus simple, trois éléments, chacun séparé par par deux si un de ces éléments d'aucune façon apparaît être le même qu'un autre, s'il peut lui être uni par quelque signe que ce soit d'égalité, il est purement et simplement tout un avec celui-ci. Au premier niveau de bâti qui constitue la théorie de l'ensemble et l'axiome d'extensionnalité qui signifie très précisément ceci, qu'au départ, il ne saurait s'agir de même. Il s'agit très précisément de savoir à quel moment dans cette construction surgit la mêmeté. La mêmeté non seulement surgit sur le tas de la construction. Si je pu dire sur un de ses bancs. Mais en plus, je puis avancer que cette même thé, comme telle, se compte dans le nom. Et que donc le surgissement de l'œuf en tant qu'il est qualifiable du même ne surgit, si je puis dire, que d'une façon exponentielle. Je veux dire que c'est à partir du moment où l'un dont il s'agit n'est rien d'autre que cet Aleph Zéro, où se symbolise le cardinal de l'infini, numérique, de cet infini que Cantor appelle impropre. Des éléments de ce qui constitue le premier infini propre, à savoir l'Aleph Zéro en question. C'est au cours de la construction de cet Aleph Zéro qu'apparaît la construction du même lui-même, et tous même dans la construction est compté lui-même comme un élément. C'est en quoi, disons, il est inadéquat dans le dialogue platonicien de faire participation de quoi que ce soit d'existant à l'ordre du semblable, sans le franchissement dont se constitue l'un d'abord, la notion du semblable ne saurait apparaître d'aucune façon. C'est ce que nous allons, j'espère, voir, si nous ne le voyons pas ici aujourd'hui, puisque j'étais à un quart d'heure de moins que ce que j'ai d'habitude. Je le poursuivrai ailleurs, et pourquoi pas la prochaine fois, au jeudi de Saint-Anne, puisque certains d'entre vous connaissent le chemin. Néanmoins, ce que je veux marquer, c'est ce qui résulte de ce départ même de la théorie des ensembles et de ce que j'appellerais, pourquoi pas, la cantorisation, à condition de l'écrire C-A-N, du nombre. Voici ce dont il s'agit. Pour y fonder d'aucune façon cardinale, il n'y a d'autre voie que celle de ce qu'on appelle l'application biunivoque d'un ensemble sur un autre. Quand on veut l'illustrer, on ne trouve rien de mieux, on ne trouve rien d'autre que d'évoquer alternativement, je ne sais quel rite primitif de potlatch, pour
très balance. Il sortira. Restauration d'un chef au moins provisoire, ou plus simplement la manipulation dite du maître d'hôtel, celui qui confronte un par un chacun des éléments d'un ensemble de couteaux avec un ensemble de fourchettes. C'est à partir du moment où il y en aura encore un d'un côté et plus rien de l'autre, qu'il s'agisse des troupeaux qui font franchir un certain seuil chacun des deux concurrents au titre de chef, qu'il s'agisse du maître d'hôtel qui est en train de faire ses comptes, il apparaîtra quoi? L'un commence au niveau où il y en a un qui manque. L'ensemble vide est donc proprement légitimé de ceci qu'il est, si je puis dire, la porte dont le franchissement constitue la naissance de l'un. Le premier un qui se désigne a une expérience recevable, je veux dire recevable mathématique, une façon qui puisse s'enseigner, car c'est cela qu'on veut dire à terre. Et non pas qu'il fasse appel à cette sorte de figuration grossière qui est celle de c'est à peu près la même chose. Ce qui constitue l'un et très précisément qui justifie le qui ne se désigne que comme distinct et non d'aucun autre repérage qualitatif, c'est qu'il commence que de son manque, ce bien en quoi nous avons, dans la reproduction que je vous ai faite ici, du triangle de Pascal, la nécessité de distinguer chacune de ces lignes dont vous avez, je pense, depuis un peu de temps, je vais assez souligner comment elles se constituent. Chacune est en fait de l'addition de ce qui est en haut et sur la même ligne, de ce qui est noté sur la droite, de chacune est donc constituée ainsi. Il importe de s'apercevoir de ce que désigne chacune de ces lignes. L'erreur, le manque de fondement qui s'énonce de la définition de Clive, qui est très précisément celle-ci, menace. Est la monade est ce selon quoi chacun des étants peut être dit hein? Et le nombre arithmos est très précisément cette multiplicité qui est faite de monades. Le triangle de Pascal n'est pas il est là pour figurer ce qu'on appelle dans
la théorie des ensembles, non pas les éléments, mais les parties de ces ensembles. Au niveau des parties, les parties énoncées phonétiquement d'un ensemble quelconque sont de la seconde ligne. La monade est seconde. Comment appellerons-nous la première, celle qui est en somme constituée de cet ensemble vide dont le franchissement est justement ce dont l'un se constitue? Pourquoi ne pas user de l'écho comme la langue espagnole et ne pas l'appeler la nade? Donc il s'agit dans répéter de la première ligne, c'est très proprement la nade, à savoir la porte d'entrée qui se désigne du manque. C'est à partir de ce qu'il en est, de la place où se fait la troupe, de ce quelque chose qui, si vous nous en voulez une figure, représenterait en étant le fondement d'un Dieu, il peut y avoir de l'un dans la figure d'un sac qui est un sac troué. Rien n'est un qui ne sort. C'est là le fondement originel à le prendre intuitivement de l'un. Je ne puis, en raison de mes promesses, je le regrette, pousser donc ici plus loin aujourd'hui ce que je tentais. Sachez simplement que nous interrogerons, comme j'en avais ici déjà les idées, que nous interrogerons à partir de la triade, la forme la plus simple, où les parties, les sous-ensembles, font partie de l'ensemble, où ces parties sont figurables, d'une façon qui nous satisfasse, pour remonter à ce qui se passe au niveau de la diade et au niveau de la monade. Vous verrez qu'à interroger non pas ces nombres premiers, mais ces premiers nombres, sera soulevée une difficulté, dont le fait qu'elle soit une difficulté figurative, j'espère, ne nous empêchera pas de comprendre quelle est l'essence et de voir ce qu'il en est du fondement de l'âme.